écouter encore ce message. Marc chapitre 1. Aujourd'hui, nous allons regarder un jour dans la vie de Jésus quand il était à Capernaum. Et c'était un jour de sabbat et nous allons suivre ce qui se passait pendant ce jour. Mais j'aimerais aussi juste souligner le but de Marc dans son évangile. Si vous regardez tout de suite dans l'évangile selon Marc, il commence avec une phrase qui indique même le but de tout ce qu'il va présenter. Il dit dans verset 1, « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Et Marc a un désir de présenter Jésus-Christ, Fils de Dieu. Cet évangile, cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu dans ce monde et qu'il est le Fils de Dieu. Mais ce que Marc va faire, c'est de simplement présenter la vie de Jésus. Et tout au long, il va vous donner les occasions, il va nous donner les occasions à voir, mais qui finalement est ce Jésus. Il mentionne qu'il était Jésus, Fils de Dieu. Ça peut avoir plusieurs sens. Ça peut avoir un sens où, voilà, nous sommes tous des fils de Dieu, n'est-ce pas? Comme un fils de Dieu, Jésus était un fils de Dieu. Ou, et c'est ceci que Marc était en train d'avancer, il disait Jésus-Christ, le fils de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui est l'incarnation de Dieu. Et à travers son évangile, il va présenter Jésus-Christ et il va donner les preuves que c'est vraiment Jésus-Christ qui est ce Fils de Dieu. J'aimerais partager avec vous les diapositives maintenant qui va suivre un peu cette journée dans la ville de Capernaum. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce qui est important pour chaque personne qui va lire l'évangile de Marc, c'est ce verset, parce qu'à travers cela, toutes les pensées de celui qui lit l'évangile selon Marc est là pour savoir, OK, Jésus-Christ, Fils de Dieu, mais comment? Quelles sont les preuves? Qu'est-ce qui est là qui nous indique qu'il est vraiment celui qui est, qu'on peut appeler, le Fils de Dieu? Tout de suite, dans son évangile, Marc mentionne Ésaïe le prophète. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qu'il est écrit dans Ésaïe. Alors, il utilise Ésaïe le prophète comme une base de cette phrase, cette déclaration qu'il a dit. Et après cela, il va présenter Jean-Baptiste, on a déjà vu. Et nous voyons que Marc mentionne que tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Jean-Baptiste était un grand prophète, le plus grand parmi les prophètes, selon ce que Jésus a dit aussi, et tout le monde était en train de venir vers lui pour être baptisé par lui. Et Jean-Baptiste donne un témoignage de Jésus, qui est la prochaine chose, et c'est lui qui dit, « Mais écoute, Jésus, il est plus puissant que moi. » Et pas seulement cela, dans verset 8, il dit, « Je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Vous voyez, Marc en train maintenant de citer Jean-Baptiste, ce grand prophète. Jean-Baptiste est en train de dire que, écoute, il y a quelqu'un qui vient après moi, qui est plus puissant, et même c'est lui qui vous baptise du Saint-Esprit. Plus tard, quand Jésus était baptisé, le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe. Voilà encore un autre témoignage. Et pas seulement cela, une voix du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Verset 11. Vous voyez, tout ce que Marc est en train de maintenant de présenter, Jésus, il est véritablement le Fils de Dieu. Et même, il y a une voix du ciel au moment de son baptême qui indique cela. En suivant, la prochaine chose que Marc nous montre, c'est son message. Et le premier mot que Marc mentionne, que Jésus a mentionné, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. C'est ça, le message de Jésus-Christ. Et maintenant, pas seulement le fait que le lecteur, celui qui lit l'évangile selon Marc, pas seulement il va chercher les idées concernant le Fils de Dieu, mais maintenant, il va aussi savoir, mais c'est quoi ce royaume de Dieu? Pourquoi faut-il repentir et croire à la bonne nouvelle? C'est quoi cette bonne nouvelle? Et c'est là où Marc, encore, il est en train de préfigurer, de démontrer un message de Jésus, et c'est après qu'on va montrer, il va démontrer de quoi ça s'agit. Après qu'il a donné son message, nous voyons tâche très importante, et c'était de former les disciples. Il disait aux disciples, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est son appel des disciples. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On voit les réactions de Simon et André. Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivre. Et après cela, aussi Jacques et Jean. Et ils faisaient la même chose. Laissant le père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Alors nous voyons déjà que l'impact que Jésus a eu sur les gens, Pierre et André, Simon, Pierre et André, Jacques et Jean, ils laissent tout pour le suivre. Mais il faut savoir quelque chose ici, que ce n'est pas la première fois que Jacques et Jean, et ni Simon, Pierre et André ont vu Jésus. Selon l'évangile, selon Jean, nous voyons que déjà Jésus a rencontré ses disciples, surtout les quatre qui étaient là. Et il a déjà eu le contact. Et peut-être on parle de 9 mois, même une année après que Jésus revienne ici et il donne cet appel et c'est eux maintenant qui le suivent. Et on voit alors leur réaction. Mais maintenant, on arrive dans verset 21 et on voit cette journée spéciale de Jésus. Et je dis journée spéciale pourquoi? Regardez verset 21. Il se rendit à Capernaum. Et le jour de sabbat. Voilà, c'est le jour de sabbat où il se rendit à Jérusalem. Si on voit plus tard dans le texte, on voit dans verset 29, en sortant de la synagogue, voilà, c'est le même jour, il se rendit avec Jacques et Jean, et c'est là où il est allé, à la maison de Simon-Pierre. Après cela, verset 32, voyez ce mot, le soir, après le coucher du soleil, c'est la même journée. Et après cela, nous voyons verset 35, vers le matin. Alors, il est en train de suivre maintenant 24 heures dans la vie de Jésus, vers le matin. Et ça dit même pendant qu'il faisait encore très sombre. Et après, si vous voyez en chapitre 2, verset 1, quelques jours après, ça indique que ce qui se passait dans le reste de chapitre 1, c'était une journée dans la vie de Jésus, un sabbat à Capernaum. Capernaum. Et c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui, cette journée du sabbat à Capernaum. Et ce qu'on va regarder surtout, c'est les réactions de tout le monde face à ce Jésus. Quelles sont leurs réactions? Comment est-ce qu'ils vont réagir face à ce qu'ils ont appris et face à ce qu'ils voient dans la vie de Jésus? Alors, Capernaum, il faut regarder quelques images ici. Vous voyez le lac de Galilée. Capernaum était une ville qui était dans le côté nord-ouest de ce grand lac Galilée. Et vous voyez une image du nord-ouest, un endroit et un grand lac qui était là, tellement beau. Nous avons beaucoup apprécié ce temps qu'on a eu auprès du lac de Galilée, même au commencement de cette année. Il semble que 5 de ses disciples étaient appelés à Capernaum. On a déjà vu Simon et André, Jacques et Jean. Mais il semble qu'il y avait aussi un poste de douane qui était là à Capernaum. Et c'était Matthieu qui était appelé ici aussi. Pas seulement cela, mais à Capernaum, on voit plusieurs miracles. On va voir aussi aujourd'hui qu'il va chasser beaucoup de démons. Il va guérir la belle-mère de Simon-Pierre. Il va chasser un esprit impur dans la synagogue. Il va guérir une paralytique. Et dans Matthieu, on voit que aussi un fils de centurion, de sentier, pardon, qui était guéri, un fils de noble, selon Jean 4, était aussi guéri là-bas. Et il semble aussi que la fille de Jaïus était ressuscitée à Capernaum. Alors, plusieurs miracles ont été faits dans cet endroit. C'est juste en parenthèse, c'était aussi l'endroit où Jésus a fait son discours sur le pain de vie dans Jean 6. Et c'est aussi là où il dirait à ses disciples, il portait devant eux un jeune enfant pour leur dire que voilà l'exemple qu'ils devraient suivre. Alors, Capernaum est un endroit très important dans la vie de Jésus. Et on voit que c'était aussi important parce que Galilée était un endroit où un chemin qui s'appelle la Via Maris a traversé, qui liait le nord, la Syrie et les autres pays, avec le sud, Égypte. Et quand les gens voulaient traverser du nord jusqu'à Égypte, ils traversaient dans cette voie Marie, qui était la voie de mer. Et ça traversait juste du parti du nord du lac de Galilée. Et c'était là exactement où nous voyons Capernaum. Alors cette voie, cette route importante pour le commerce, est traversée à travers Capernaum. Vous voyez devant vous une image avec les colonnes et les anciens piliers, une synagogue très ancienne dans Capernaum. Et ce qui est intéressant, certains ont pensé que peut-être ça pouvait être même une synagogue au temps de Jésus. D'autres disent non, que c'était peut-être 400 années après. Mais ce qui est très intéressant, si vous voyez la fondation de cette synagogue qui était là, il y a une sorte de pierre qui était tellement différente, qui était tout noire, qui était la sorte de pierre qui était dans cette région, et c'était là où on pensait que c'était vraiment ce même synagogue de Jésus. Pas la synagogue qui était blanc en haut, mais celui qui était en bas, qui était détruit, mais en dessus, on a construit une autre synagogue. Mais vous pouvez quand même voir le plan de cette synagogue. C'était un endroit quand même grand, un endroit où les gens venaient pour apprendre, pour adorer le Seigneur. La synagogue était les endroits très importants pour les Juifs. Et nous avons déjà vu la semaine passée la première réaction de ceux qui étaient là quand Jésus enseignait. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait ayant autorité et non comme les scribes. Voyez, Marc va nous montrer les réactions des gens face à Jésus. Et face à son enseignement, il disait qu'ils étaient frappés de cela. Complètement frappés, parce qu'il enseignait avec autorité. Bien sûr, il est le Fils de Dieu. Il est venu dans ce monde pour démontrer la volonté de Dieu. Et quand il part, c'est avec une sorte d'autorité. Il n'est pas en train de dire, mais écoute, je pense que ceci, ou j'espère ceci. Non, il dit, en vérité, je vous le dis. Il est le Fils de Dieu. Il a l'autorité divine. Il vient en leur démontrant ce que Dieu a dit. Nous voyons aussi que un incident qui est arrivé, cet esprit impur qui était là dans ce synagogue. Et j'aimerais juste lire ceci et on va voir même une réaction venant de cet esprit impur. Vous pouvez suivre ceci dans verset 22, pardon, verset 23. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es, qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Alors nous voyons que tout de suite, les esprits impurs, on peut dire les démons, les forces sataniques, ont déjà compris qui était là. C'était Jésus. Et qu'est-ce qu'il disait? Ils avaient peur que Jésus est venu pour les juger, pour les rendre en enfer. Et il disait, je sais que tu es le Saint de Dieu. Alors, bien sûr, Jésus ne veut pas qu'un démon rende témoignage de lui. Alors, les démons sont des menteurs, les démons font toutes sortes de choses, et pour avoir un démon en train de dire les choses, alors c'est pas un bon témoignage, et il leur dit, mais tais-toi et sors de cet homme. Et cet homme a eu été délivré, mais pour pousser une dernière tentative, cet démon a sorti avec violence, disait, et il poussait un grand cri. Vous voyez déjà la réaction des démons, une réaction des esprits impurs. Et face à cela, nous voyons aussi la réaction des gens de Capernaum. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, mais qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Même les gens, en voyant cela, ils voyaient quelque chose de stupéfiant. C'est-à-dire, ils étaient bouleversés. Mais comment? Comment un homme peut simplement dire et cet esprit impur sortait? Tout cela, voilà, Marc est en train de montrer comment les gens réagissent face à ce Jésus. Et ça dit maintenant dans verset 28, et sa renommée se répandit aussitôt dans les lieux environnants de la Galilée. Bien sûr, après les gens partent de la synagogue, ils rentrent à la maison et les gens venaient de tout coin de Galilée. Maintenant, ils vont dire, mais écoute, tu ne peux pas savoir ce qui est arrivé aujourd'hui. À Capernaum, dans la synagogue, et commence à raconter ce qui s'est passé. Alors, leur réaction, encore, c'est maintenant de dire aux autres ce qui s'est passé. Et nous voyons que, voilà, après un temps à la synagogue, tout le monde rentre chez eux, et les disciples se rendent chez Simon-Pierre. C'est sa belle-mère qui avait sa maison là-bas. Et bien sûr, on va rendre visite à sa belle-mère, et c'est là où les disciples viennent à Jésus lui dire que, écoute, la belle-mère de Pierre est malade. Et voilà, la belle-mère de Simon Pierre était couchée ayant la fièvre. Aussitôt, on parle d'elle à Jésus. Bien sûr, quand on sait qu'on a devant nous un grand prophète, et si on regarde déjà, on suivit déjà l'évangile selon Jean, les disciples ont compris que Jésus a déjà fait ce grand miracle à Cana en changeant cette eau en vin. Il y avait d'autres miracles que Jésus a déjà fait et maintenant ils demandent et ils disent à Jésus, écoute, la belle-mère est malade. Et c'est une réaction normale. Si tu sais qu'on a un grand prophète, et si tu sais qu'il a la capacité de guérir, bien sûr, tu vas amener des autres. Et la belle-mère, c'est la première que les disciples apportent vers lui. S'étant approché, nous voyons Jésus, il la fit élever, et en lui prenant la main, l'instant, la fièvre la quitta. C'est intéressant que Marc dit qu'elle avait une forte fièvre. Et on sait que dans ce temps, et même aujourd'hui, quelqu'un n'est pas couché, sauf s'il est tellement malade. Vous savez, parfois on a une fièvre ou quelque chose, mais on continue. Il y a des gens qui viennent à la maison, Jésus est là, alors on va se forcer. Mais on sait qu'elle était tellement malade, elle ne peut pas se lever. Et Luc disait qu'elle avait une forte fièvre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus simplement, prenant la main, à l'instant, la fièvre la quitta. Et de quelle manière? On voit que la belle-mère de Simon-Pierre se leva pour le servir, puis elle les servit. Elle était instantanément guérie au point où elle avait même la force d'aller servir les autres. Et c'était une bonne réaction aussi de la part de la belle-mère. Après cela, nous voyons que voilà, tout le monde est en train de savoir qu'il y a un grand prophète à Capernaum. Et nous voyons maintenant le soir, toute la journée s'est passée, et les gens entendent le soir pourquoi c'était le jour de sabbat. Et le jour de sabbat, on ne peut pas faire les grandes œuvres, alors ils attendent le soir, ils attendent le coucher de soleil, et nous étions aussi en Israël, même aujourd'hui, le jour de sabbat, alors tout est fermé, on n'est pas en train de faire grand chose. Mais le coucher de soir, le coucher de soleil, dès que ça arrive, alors les magasins ouverts et toutes les choses est normal encore. Et c'est ça, les gens attendent le coucher de soleil et on lui amena qui? Tous les malades, tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant sa porte. Bien sûr, ils ont entendu ce qui se passait et maintenant toute la ville est là. Ils attendent encore les guérisons. Ils attendent encore que le Seigneur fait quelque chose. Et c'est ça ce qu'on voit. Regarde les prochains versets dans verset 32, 33. Qu'est-ce qui se passait quand tout le monde est venu dans sa porte? Verset 34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons qui parlent parce qu'ils le connaissent. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit. Alors, une nuit qui était très longue, les gens venaient pour être guéris et il était là toute la nuit, je peux imaginer, en train de guérir ceux qui étaient là. Toute la ville était rassemblée à sa porte. Et le matin, maintenant, on voit la réaction de Jésus face à tout cela. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Voilà la réaction de Jésus face à tout ce qui se passait. Il est allé prier. Quel exemple pour nous aussi. Souvent, quand on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de tâches et on a toute une liste devant nous, alors on se lève de bon matin pour aller attaquer le travail. Mais Jésus, il se leva pour aller prier. Et nous voyons la réaction des disciples, ils se lèvent le matin et ils se mirent à rechercher Jésus. Pourquoi? Ils disent, quand ils ont trouvé, tous te cherchent. Alors tout le monde était toujours là à la maison. Tout le monde était en train de chercher Jésus. Et c'était normal, les disciples viennent vers Jésus et disaient, mais écoute, tout le monde est en train de chercher. Allons-y, on doit les aider. Mais c'est très important ici à souligner la réaction de Jésus. Il répondit, allons ailleurs. Allons ailleurs. Allons ailleurs. On pose la question, mais pourquoi Jésus? Il y a beaucoup de gens qui sont là. Ils ont besoin d'être guéris. Et c'est là où Jésus souligne pourquoi il est venu. C'était pas pour faire les guérisons. C'était pas pour simplement chasser les démons. Il est venu pourquoi? C'est là où Jésus disait, allons ailleurs, dans les bourgades voisins, afin que j'y prêche aussi. Le but du ministère de Jésus, c'était pas simplement de guérir. Il a dit, j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Il est sorti pour leur donner la bonne nouvelle, pour leur donner le message qui vient de Dieu. Et ça dit qu'il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, chassant les démons aussi. C'est ça ce que Jésus est venu. Il est venu pour prêcher. Luc 19, verset 10 nous dit aussi que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Jésus avait un but d'aller prêcher la bonne nouvelle et d'aider ceux qui étaient perdus de se repentir et croire à cette bonne nouvelle. Voyez Marc en train, dans ce chapitre 1, de démontrer les réactions de tout le monde. Et ils nous attendent aussi de réagir face à Jésus-Christ. Plus tard, on va voir une réaction venant des leaders religieux. Ils seront encore bouleversés par ce que Jésus dit. Jésus va dire les choses qui ne sont pas normales pour un homme de dire. Et ils vont dire que même Jésus, tu es en train de blasphémer parce que toi, un homme, tu te fais Dieu en te disant que tu es le Fils de Dieu. Mais Jésus va leur montrer, mais écoute, regarde les miracles, regarde les preuves. Pourquoi est-ce que tu me blâmes si je faisais toutes ces choses? Et on voit la réaction des autres seront de repousser Jésus, de ne pas croire à Jésus. Mais les disciples sont toujours avec lui et eux aussi, ils commencent à aller partager cette bonne nouvelle aux autres. Enfin, qu'est-ce qui se passait avec Capernaum? Vous avez vu des images un peu avant, on ne sait pas même beaucoup concernant Capernaum. On voit une synagogue, une reste qui est là, mais la ville de Capernaum n'existe plus aujourd'hui. Enfin, cette ville a été jugée par Dieu, et c'est là où j'aimerais juste clôturer avec lui. On a vu un sabbat à Capernaum, mais ce n'est pas la dernière chose, le dernier mot que Jésus va dire sur Capernaum. Il y a un autre verset dans Matthieu. Et c'est là où Jésus va blâmer Capernaum. Il va dire, « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? » Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsistera encore aujourd'hui. » C'est-à-dire que oui, Capernaum est venu vers Jésus, ils ont voulu être guérir, ils ont eu beaucoup de guérisons, mais on ne voit pas la repentance. On ne voit pas les gens en train de se repentir. On voit plutôt ses disciples qui le suivent. Et enfin, Capernaum a été jugé à cause de cela. Et cela nous indique aussi que nous, en tant que des croyantes, nous avons été confrontés avec ce Jésus et qu'est-ce que nous allons faire face à ce que nous voyons. Et pour ceux qui sont des non-croyants, qu'est-ce que vous allez faire avec Jésus? Je vous encourage à encourager ceux qui sont des non-croyants, ceux qui ne croient pas en Jésus, de lire l'Évangile selon Marc. Parce qu'en lisant cet Évangile selon Marc, ils vont voir les réactions des autres, ils vont voir les mots de Jésus, ils vont voir comment les autorités vont le tuer, ils vont voir la réaction de Jésus, ils vont voir sa résurrection, ils vont voir les disciples en train de partager cet Évangile aux autres, cette bonne nouvelle de la mort et résurrection de Jésus. Alors, tout cela, c'était dans le plan de Marc. C'était de présenter Jésus pour que les gens puissent croire en lui. Et voilà, des réactions des gens qui étaient à Capernaum est un exemple pour nous tous aussi de réagir face à ce Jésus. On ne doit pas se taire, on doit aussi publier cette bonne nouvelle. Prions. Seigneur, merci pour cet évangile selon Marc qui nous présente le Seigneur Jésus et nous te remercions pour son autorité en enseignant et au-dessus des maladies et des démons. Et Seigneur, nous prions que nous puissions réagir de la même façon que les disciples ont réagi en dirigeant les autres vers toi et en te servant. Aide-nous de te servir, aide-nous Seigneur aussi de ne s'appuyer pas sur notre propre force. Seigneur, nous avons besoin aussi de prier. Aide-nous d'être comme le Seigneur Jésus, d'aller prier et de chercher la force qui vient de toi. Et nous prions aussi pour ceux qui sont dans nos familles, ceux que nous connaissons, qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Nous prions pour qu'ils puissent avoir un temps de lire dans l'Évangile de Marc ou les autres évangiles pour voir ce message que Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et nous prions tout cela au nom de Jésus. Amen.